Radio Libertaire, Chronique Hebdo reprend. Chronique Hebdo avec, on a entendu quelques notes de Thelonious Monk. Orchestra at Town Hall. Bon, on continuera au cours de l'émission. Et puis, deux magnifiques chansons interprétées par Catherine Ribeiro. Catherine Ribeiro, c'était au Bouffe du Nord, l'enregistrement en 1995. Et donc, une chanson, Les Vies Monotones, Gérard Manset, et puis La Mémoire et la Mer de Léo Ferré, interprété par Catherine Ribeiro. Alors, bah oui, il y a des auditeurs, j'ai des auditeurs qui ont appelé, et ça va bien pour eux, alors je leur souhaite que ça aille encore mieux pour l'année 2017, parce qu'ils avaient quelques petites difficultés de santé pour à la fin de cette année 2016, et quelquefois c'est vrai que c'est pas facile, c'est-à-dire que, comme disait René Char, alors je ne sais pas, je vais vous quand même le dire, puisqu'il y a des émissions poétiques, vous le savez, sur Radio Libertaire, depuis plusieurs jours, sinon plusieurs semaines, à partir de 8h le matin, la poésie est libertaire, c'est bien vrai. Et donc, René Char nous disait, la lucidité est la blessure la plus proche du soleil, une forme de lucidité. Alors évidemment, on peut rigoler. Après, pour Pierre Dac et Francis Blanche, pour la lucidité ou l'extra-lucidité. En tout cas, la conscience aussi de ces questions du monde. Si les gens, c'est pas une nouveauté pour les libertaires et les anarchistes qui ont cette sensibilité. Les autres l'ont pas, faut croire. Ils ont que leur nombril quelquefois, oui, et leurs problèmes personnels, Et puis le reste, on en parlait tout à l'heure avec un auditeur au 19e siècle, la haine du pauvre. Les pauvres peuvent crever. Apparemment, un ciné mensuel du mois de décembre, l'auditrice nous rappelait, dans un article que le vote des républicains, de ces 10 républicains, la haine du pauvre, la haine des miséreux, et là encore le mépris, donc qui existe évidemment avec le faux nez de dire non, on va s'occuper de vous, on va faire tout ce qu'on pourra faire, surtout pour vous faire disparaître. Mais en fait, ils le disent pas comme ça. Et je voulais, à ce propos justement, puisque je vous parlais de la pauvreté, la précarité, autre au mot à la mode, si l'on peut dire, puisque c'est un mot religieux, précarité, par la prière, obtenir quelque chose par la prière, puisque la langue, comme on dit, la langue, elle est pénétrée de l'intérieur par toute une terminologie religieuse, je veux dire les politiciens, en tout cas les structurations, vous le savez, secrétariat, secrétaire, ministre, ministère. Donc ce gouvernement, un gouvernement, c'est religieux, je vous l'ai déjà dit, c'est comme des grands prêtres, c'est pareil, c'est la même chose. Le pape François, c'est un chef d'État et c'est le chef de la secte religion bras dessus avec l'État. Relire Bakounine et de voir la force des religions et la force de l'État qui se soutiennent évidemment ensemble. Alors, autre valeur religieuse, le travail. Tu gagneras ton pain, enfin là tu perdras tout, à la sueur de ton affront. Là aussi, donc le religieux, pour le travail, la dignité, là aussi, les pauvres, plus ils ont chiron, comme on dit, sur cette terre, plus ils auront, là-haut, dans un truc, évidemment, vous savez bien l'escroquerie, une place favorable pour l'éternité, ça dure longtemps, c'est trop long tout ça. Et donc, évidemment, ça marche, évidemment, ça peut marcher, puisque les créatures, comme je rappelle Max Stirner, hein, relire Max Stirner, on veut faire de toi une créature, les religions, et essaie de devenir un créateur de ta propre vie. Hein, pour ça, en prenant une certaine distance, évidemment, en prenant conscience de tous ces déterminismes et de toutes ces pressions sociales sur la personne, et cette difficulté, justement, cette difficulté à subvertir cet état et de fait, et puis à s'émanciper, hein, le bon mot, s'émanciper, justement, toute cette difficulté qui est là, présente pour chacun d'entre nous, puisque la société, c'est un peu comme une glue, hein, c'est une colle, on est là-dedans, hein, donc vous savez bien, et les autres vous collent, et les autres vous font taire, comme on dit, vous font taire, voilà. Alors, parce que c'est comme ça, ça a commencé très tôt, taisez-vous, hein, des enfants, là, bon, là, ce matin, c'est le cours qui commence, alors c'est le cours où on va vous apprendre des choses pour vous faire tenir tranquille, hein, puisque après, je vais vous le dire tout à l'heure, ça fait 180 000 personnes qui travaillent, qui sont passés par l'école de la République et qui fabriquent des armes, hein, voilà, rien que ça. Alors ça sert l'école, hein, certains, j'ai entendu aussi sur une radio, ça sert de temps en temps des petites transports en bagnole, hein, où il y a France Culture, où là, c'était donc aussi l'école de la République, l'école n'arrête plus les balles. À Marseille, hein, Marseille, certains quartiers de Marseille Nord, et là encore, des profs n'y croyaient plus, puisque la République était là pour chacun de ses enfants, mais les pauvres malheureux professeurs, ils ne sont pas sortis de l'école, puisque jamais sortis, puisqu'ils sont tout de suite rentrés dans l'école, et donc cette croyance, j'entendais une prof faire une description de la misère, de la dureté, évidemment, d'un collège à Marseille Nord, mais après, pour la réflexion, d'aller un petit peu plus loin, c'était évidemment difficile, en ayant envie de lui dire, mais on s'en fout, est-ce que l'État, est-ce que le gouvernement a quelque chose à voir avec ça? Il s'en tape, puisqu'on nous disait que cette partie de Versailles, de Versailles, pas Versailles, mais à Versailles c'est pareil, de Marseille Nord, il y avait apparemment ceux qu'on appelait les Huitans et ceux qu'on appelait les Africains qui se faisaient la guerre. Alors ils peuvent annoncer qu'il y a eu 10 ou 15 morts donc en 2016 dans ces quartiers nord, et alors, hein, diraient les ministres et les sinistres, et après, circuler. Circuler, il n'y a rien à voir, on s'en tape, hein, c'est tout. Et les professeurs pensent que l'école peut faire quelque chose, donc, puisque c'est l'école, je le répète souvent dans cette émission, c'est l'école capitaliste, hein. C'est pas autre chose, hein, réfléchir à ça, elle a pour fonction, évidemment, de préparer les individus à la soumission, de préparer les individus aux fourches codines du travail, de préparer les individus à accepter l'ordre établi, et puis préparer les individus à l'esprit critique, préparer les individus à l'émancipation, préparer les individus à la révolution ou à la révolte, hein, par rapport à l'état des lieux. Si les profs s'en rendent pas compte de cet état capitaliste, c'est malheureusement un constat, puisqu'ils sont entre eux, hein, vous le savez, c'est l'effet de caste, l'effet de groupe, l'effet de corporation qui fait que les gens fréquentent que les gens qui leur ressemblent, et donc ils disent à peu près tous la même chose et ne risquent pas dans ces conditions de changer. Alors, pour un résultat qu'il est formidable, l'auto-entrepreneuriat, je vous laisse vous en parler, remède à l'inactivité, mais pas à la précarité. Hein. Alors bon, il y a eu un autre article, je vous en parlerai pas de la dignitude, de la dignité, hein, de voir le travail. Bon, là aussi, de voir à partir des années 50, le positionnement de certains partis politiques et syndicats, qui donnait, cette femme prof, enfin chercheur aussi, raconte que à cette époque-là, la gauche, elle savait dire, comme je vous parlais des prêtres, elle savait employer les mots, hein, les mots pour le dire, les mots pour convaincre que les esclaves, il fallait qu'ils retroussent leurs manches, hein, vous le savez, pour les mineurs, avec Thorez et compagnie, pour relever la France. Hein. Alors évidemment, la France, quand on n'a rien, ou pas grand-chose, mais on est là pour le foutre dans la tête des gens, avec le patriotisme, avec toutes ces absurdités, évidemment, qui sont inculquées, entre autres, par l'école de la République. Alors, l'auto-entrepreneuriat, comme disait un auditeur, ça vient des States, hein, ça vient tout vient de là-bas, des États-Unis. Alors là aussi, vu comme la panacée par beaucoup de responsables politiques, alors irresponsables politiques, évidemment, le statut d'indépendant se caractérise par des revenus moyens très faibles. Alors, l'auto, ça remonte à... créé en 2008, hein, le statut, déjà ça dure, hein, quand même, 8 ans, 9 ans, s'exploiter soi-même, hein, c'est quand même formidable. La source, un peu, c'est des Madeleines, hein, des Tapes Dures, Occident, enfin, toute cette bande-là de anciens ministres de l'Industrie, enfin, tout ça du temps de Tchernobyl, le Madeleine. Il est toujours là, il faut qu'il nuise jusqu'au bout, hein, il est toujours bien peigné. Et là, je sais pas, il s'occupe de solaire en Afrique, hein, si vous le rencontrez dans la rue, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis le Novelli aussi, bon, il était dans les cabinets, lui, là aussi, puis il a été un peu député. Alors, il y en a d'autres. Il y a le Volo aussi, qui a été vice-président du MERDEF, hein, comme je l'appelle, vice-président du MERDEF, hein, formidable, le statut d'auto-entrepreneur. Et donc, les résultats, c'est une catastrophe, hein, 8 ans après. Donc, il y a quand même plus d'un million de gens, hein, qui auraient ce statut en France. Alors, pas de congés payés, quasiment pas de congés maladie. Enfin, c'est très compliqué, j'emploie ce mot-là à dessein, on l'entend partout, compliqué. Donc, pour les congés maladie, quasiment pas, ou faut attendre. Pas de congés payés, pas d'histoire de retraite, hein. Quasiment rien, tout ce qui pourrait être, qui avait été obtenu par la lutte, comme on dit, pour le salariat, une partie, enfin, sauver un petit peu de droit, pour pas crever tout de suite, eh bien là, tout a disparu. Hein. Tout doit disparaître, hein, puisque finalement, vous êtes votre patron, hein, et il n'y a rien de mieux, et je suis auto-entrepreneur. Alors, auto-entrepreneur, ça va bien, puisque c'est les VTC, hein, c'est la bagnole, hein, auto-entrepreneur de mon auto qui ne m'appartient pas, pour laquelle je me suis endetté, hein. Et puis même mon beau costume, hein, pour lequel je me suis endetté. Et là, tout ça, ça fait des ubéristes. Hein. C'est ceux qui travaillent, vous savez, Uber le voyou, l'escroc, ubérisation de la société, t'as le bonjour d'Uber, hein, entre autres. Et alors, dans cet article, on voit que les gens n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, hein, c'est en dernier recours. Ils essaient de faire ça. Alors là, actuellement, il y a toute l'histoire des voitures avec chauffeur, VTC, et donc qui sont, ça fait plusieurs semaines, hein, qu'ils étaient en conflit, ils ont repris là, il y a quelques jours, en début d'année, je ne sais pas où s'en est le résultat, hein, par rapport à l'ubérisation de la société, et je vous le disais, le revenu, hein, en moyen, 400 euros, hein. Alors, évidemment à Paris, pour un ordre d'idée, à peu près pour un studio, hein, 25 mètres carrés, 30 mètres carrés, c'est 700 à 800 euros à Paris. Hein. Donc, pour un petit peu en Ile-de-France, c'est un petit peu en dessous, mais c'est quand même de ces montants-là, donc c'est quasiment inaccessible. Et tout ce qui a été prévu aussi, le maximum, hein, c'est 2000 euros par mois, hein, net, hein, on peut pas aller au-delà. Mais enfin, bon, qu'on empêche les gens d'aller au-delà, il y en a quasiment pas qui peuvent y aller, à moins, comme une femme, là, qui, dans cet article, raconte qu'elle travaillait tout le temps. Hein, donc elle arrêtait pas, donc jusqu'au, on en a parlé, je vous l'ai dit, hein, du burn-out, hein, c'est-à-dire du syndrome d'épuisement. Il y a un président de la Fédération des auto-entrepreneurs qui s'appelle Grégoire Leclerc. Le magasin Leclerc, je ne sais pas, c'est pas un de la bande, c'est pas le même apparemment. Donc, des hypermarchés. Mais là, c'est un hypermarché aussi, Uber, hein, vous le savez. Ne peut être donc une personne, cette femme dit, de 28 ans, ce n'est qu'un tremplin, vers le vide, vers la mort. Ça ne peut pas être une situation durable. Et alors voilà ce que je voulais dire par rapport à ça, donc un avatar du capitalisme, du salariat, hein, puisque c'est le salariat, c'est le nouveau salariat, c'est le salariat sans droit, rien du tout, donc on retire tout, sous couvert évidemment de liberté, vous le savez ce que ça veut dire, ce mot-là qui est employé, dans cette histoire-là, les deux protagonistes, les meilleurs et qui veulent justement profiter de ce qu'ils disent, ce qu'on appelle la révolution numérique. Hein, vous ferez pas, c'est pas la révolution sociale, mais la révolution numérique avec le travail indépendant. Eh bien, c'est le Macron. Hein, c'est le macro, c'est l'économie de macro, la macroéconomie, la macroéconomie, et c'est le Fillon. Voilà, les deux. Protagonistes qui sont des ultras pour l'application et pour le développement de l'ubérisation de la société, 400 euros par mois, net d'impôts, et net d'impôts, je vous parlerai des impôts peut-être un petit peu si j'ai le temps, eh bien, là aussi, c'est une réussite absolue. Alors, encore un avatar, comme je dis, de descendre encore un petit peu, et d'avoir présenté ça, évidemment, par tous ces escrocs, hein, puisque dès que c'est un politicien qui ouvre sa gueule, c'est pour une scélératesse. Eh bien, donc, tous ceux qui ont lancé ce machin-là, cette exploitation un petit peu plus supérieure, pour la faire passer comme ça va bien, hein, je suis patron, hein, voilà. j'ai pas de syndicat, hein, je m'exploite moi-même. Mais je veux pas de syndicat. Alors bon, c'est une situation quasiment schizophrénique, hein, aussi. Pour ça qu'on a du burn-out et que les gens vont très mal. Et voilà ce que vous avez en magasin là pour les pestilentiels de mois de mai, hein, évidemment qui concernent pas les anarchistes puisque le vote, vous savez, lu par cette crapule, ce que nous en pensons, puisque rien ne changera. Et referont le coup, bon, ça peut se profiler comme le coup de 2002, hein, le coup du Le Pen-Chirac, hein, là, ça sera Fillon aussi, avec le même nom en face, enfin, peut-être quelque chose comme ça, enfin, c'est parti pour que ce soit comme ça. Pour savoir le vainqueur, eh ben, c'est de dire celui qui conviendra le mieux, hein, au capitalisme, au moment précis, au moment T, s'il y a encore et un gros paquet de gens qui se déplaceront, puisque c'est une religion. Hein. Donc l'argumentation rationnelle, la démonstration, la critique, l'argumentation, ben souvent ça, on a du mal à avoir prise sur ce système de votation, puisque les gens ils sont un peu pris là-dedans comme dans une religion, la religion républicaine. Hein. Là aussi, et c'est très difficile d'avoir une transformation, un changement, parce que ça les rassure, hein, ils vont aller mettre un bout de papier, enfin ils vont aller choisir leur bourreau, on vous l'a déjà dit, quelqu'un qui ne fera évidemment rien pour eux, bien au contraire, hein, on va voir ça évidemment aux États-Unis ou dans tous les pays, hein, que ce soit la Corée du Sud, hein, là, je vous disais au début de cette émission, ou que ce soit aux Philippines, hein, ils ont voté et puis après, hein, ou là-bas, donc le mec il flingue tout le monde. Mais il n'empêche que c'est l'évolution des sociétés pour le moment. Donc cette votation qui conduit, encore une fois, puisque vous l'avez vu, le télé-évangéliste Macron, là, qui s'est poumonné, je pense qu'il a, il, savoir qu'il avait fait un petit peu de théâtre à 15 ans avec sa Brigitte, donc qui était prof, et donc il cornaque un petit peu, hein, Brigitte, et puis Macron. Donc là encore, c'est pitoyable. Hein. Enfin, il faut pas voir un peu les images. Les images de cette télé-réalité avec le public, et puis avec le fion, l'outsider des dernières très primaires, là aussi, donc est élu par cette crapule. Donc voilà un peu le paysage, hein, le paysage évidemment que comprend que des auditeurs auditrices de cette radio et qui partagent un petit peu une vision semblable de ce que l'on propose, et quelquefois un peu de blues, hein, comme on dit, un peu de désespérance par rapport à ce qui est montré dans le fenestron et par l'ensemble des médias. Alors ça, c'est une chose. Donc restez à l'antenne, hein, puisque j'espère Radio Libertaire et de cette émission. Je vous parlerai un peu. Je vais revenir sur le collabo, Chérec. Je vais revenir aussi et puis sur le brigand, hein, rapidement, et puis aussi vite fait je vous en ai déjà parlé sur le burn-out de la curaille, hein, de la prêtrise. Voilà, vous êtes sur Radio Libertaire, c'est le 89.4 et c'est sur internet et c'est podcasté. On se retrouve après une partie musicale. Je vous rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40.
Ni lieu ni lèvres, la langue du profit ne fait jamais crédit. On aime ce pays, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, le ciel est toujours gris, c'est jamais de la vie. Le ciel n'est jamais clair et Dieu nous parle peu. Le paradis trop cher, on est des gens de peu. On porte les valises, on porte le chapeau, on porte la cerise sans toucher au gâteau. Et ceux qui méprisent ces cousus de fil blanc attendent la reprise pour nous mettre dedans. Le ciel n'est jamais clair et Dieu nous parle peu. Le paradis trop cher, on est des gens de peu. On se paye de mots et ses monnaies de sages. Notre cœur en lambeaux tombe toujours de haut. On se paye de mots et ses monnaies de sages. On donne tout, on donne pas cher de notre peau. Le ciel n'est jamais clair et Dieu nous parle peu. Le paradis trop cher, on est des gens de peu. On est de ce pays, sans foi, ni lieu, ni lèvres. La langue du profit ne fait jamais crédit. On est de ce pays, qu'il pleuve, qu'il vente.
jour et nuit, en pays ennemi. On se lève aux aurores, dans un train de banlieue, on roule pas sur l'or, mais y'a plus malheureux, ceux qui perdent le nord, ceux qui ont de bons yeux, peuvent y croire encore et rêver de ciel bleu.
Radio Libertaire, jusqu'à midi, reprend. Alors, un peu toujours, hein, tel le news. Et puis, juste avant, une chanson d'Yvan Dautin, Un monde à part. Un monde à part, c'est l'album. Et la chanson, c'était On est de ce pays. On est de ce pays, donc Un monde à part. Dernier album d'Yvan Dautin. Alors, à ce sujet... Je vous informe que le forum Léo Ferré que nous soutenons, hein, le forum Léo Ferré évidemment, 11 rue Barbès à Ivry-sur-Seine, eh bien samedi 14 janvier, c'est pas le samedi qui vient, hein, c'est pas après-demain, samedi 14 janvier, eh bien Yvan Dautin chantera au forum Léo Ferré, donc... autour de cet album et peut-être d'autres des nouvelles chansons, Un monde à part, et en première partie Isabelle Sochefer, hein, je vous le rappelle, donc le forum Léo Ferré, 11 rue Barbès à Ivry-sur-Seine, le téléphone, je vous le rappelle, hein, si vous voulez aller voir sur le site du forum Léo Ferré, demandez le programme, vous aurez tout ce qu'il faut, hein, un superbe site avec tout un tas d'explications, de propositions pour les mois qui viennent. Et le téléphone, eh bien, c'est le 01 46 72 64 68, le 01 46 72 64 68. Alors, là aussi, c'est samedi prochain. Là, c'est après-demain, 7 janvier. Vous savez, Télébocal, on l'a déjà évoqué, Télébocal, ne serait-ce qu'ils sont dû venir plusieurs fois à Radio Libertaire. Et ils sont venus dans cette émission il y a bien bien longtemps, donc les animateurs de Télébocal. Et donc un spectacle, Les deux ailes de l'oppresse. Ça sera, je vous le rappelle, samedi, je ne peux pas répondre au téléphone, samedi 7 janvier 2017 à Paris. Je vous donne le numéro de téléphone, pas encore, mais l'adresse c'est Télébocal, 10 bis rue Bisson, 10 bis rue Bisson, dans le 20e, hein, métro Couronne. Donc ça c'est facile, et alors beaucoup d'interprètes, 30 artistes, rien que ça, chantent l'oppresse, parmi lesquels, je vous en donne quelques-uns, géants, il y a Rémo Gary, et il y a Claire Elzière, alors il y en a d'autres, hein, que Pacou, il y a Willy, Fanfan... Et j'arrête. Bon, une liste impressionnante. Et vous avez les informations si vous avez la machine, Internet. Hein. Vous tapez Télébocal, Les deux ailes de l'oppresse, samedi 7 janvier. Et vous aurez des informations complémentaires, évidemment, de citer Alain Lepresse, hein, puisque beaucoup de gens le découvrent une fois qu'il est disparu. Hein. C'est comme ça. Alors, voilà pour les annonces spectacles, hein, puis je vous dis pas d'aller à Publico, là, puisque c'est l'inventaire à Publico, 145 rue Hamelot, donc il faudra attendre mardi prochain. Alors, je voulais vous parler, je vous avais dit, hein, bon, le collabo, le Chérec, hein, qui est disparu, là, le Mondain, lui a fait une pleine page. Alors, allez vite, définitivement réformé, hein, j'ai mis compromis, con et promis, évidemment, pour Chérec. Alors, dans cet article que j'ai balayé, disparition, hein, mercredi 4 janvier, ancien secrétaire général de la CFDT, une pleine page, hein, donc en avril 2016, le Hollandais l'avait nommé haut-commissaire à l'engagement civique. Hein. On peut, vous comprenez ce que ça veut dire. Alors, il l'appelle la grande figure du syndicalisme. Passionné de rugby, hein, le sport. Alors là aussi, je trouve dans la famille, il y en avait un aussi qui était un frère président du football club de Grenoble Rugby. Hein, donc, plusieurs frères. Il y en avait un qui sévissait dans un groupe commercial aussi. Donc ils sont plusieurs, hein, je vous l'avais dit, il y a le père qui était chez le Rocard au gouvernement. Alors le héros là qui est toujours là aux étrangères l'avait fait Monsieur Pauvreté, hein, du temps où il était premier sinistre. Hein. Il a pris la présidence de Terra Nova. Hein. Alors, il faut préciser, hein, toujours qu'on précise, un think tank, hein, tank dedans, une boîte, enfin, il y a tout le contraire que de la pensée, proche d'un parti socialiste dont il n'a jamais été membre, même s'il a voté pour le François, hein, en 2012, hein, comme tous les cocus. Alors, ses parents... À l'origine, je vous le disais au début de cette émission, des catholiques de gauche, il fait du scoutisme, il a continué après, il savait pas. Donc, vous savez, des surnoms d'animaux, hein, pour les malheureux animaux, comme je dis, hein, quelquefois, pour lui donner un surnom chez les scouts, hein, une sorte d'initiation, vous savez, c'est un bizutage, hein, ça n'a pas bougé, il y a un petit truc qui est sorti là-dessus, hein, un petit ouvrage. Sur ce qu'on fait subir, évidemment, aux petits scouts, hein. Ben, c'est comme ça. Ambidextre, il était, ben, je pense, oui, hein, pour la droite et la gauche, il savait pas très bien les reconnaître. Et donc, il était là pour ça, hein, parce que quand on sait pas reconnaître la droite de la gauche, c'est ce qui se passe, vous le savez, actuellement, et c'est ce qui est recommandé, et en particulier aux électeurs, hein, de ne plus savoir. Alors on évoque Nicole Notta, donc il est devenu, enfin à l'époque la tsarine l'avait suivi, Nicole Notta qui l'a bien installé aussi au fil de l'épage, ce n'est ni un intellectuel ni un orateur, on s'en était aperçu, mais il faut peut-être mieux hein, pour être un intellectuel et pas un orateur. Alors, Fillon, ministre du Travail, sur la réforme, le compte n'y est pas. Alors, il y avait eu, avec Raffarin à l'époque, donc pour la réforme des retraites... pour la pénibilité, enfin pour plein de choses, donc accepter, pas accepter, réformiste pur sucre, hein, je vais aller vite. Hein. Il a été un moment pour l'histoire des recalculés, hein, c'était en 2004, ces chômeurs de longue durée, qui ont vu leurs allocations baisser à la suite d'une convention d'assurance chômage signée par la CFDT. Il était conspué à l'époque par des artistes et des précaires. Hein. Le siège de la centrale est caillassé. Alors ça, c'est les bonnes. Et puis, il terminait sur un ouvrage, enfin, je pense que c'est un pensum, Patricia Romain Nabila et les autres, chez Albin Michel. Un reportage sur ses rencontres avec des salariés dans leur travail, des esclaves dans leur travail. Il y décrit le déclassement invisible des précaires hein, qui servent de bouclier, je voulais parler de Uber, ubérisation, bouclier social aux salariés les plus stables. Hein, voilà, donc disparition d'une crapule. Bon, c'est comme ça, hein, pour il y en a d'autres, hein, mais bon, pour le Chérec et bien gras, hein, bien quand même, bon il est mort relativement jeune, une soixantaine d'années, mais avec quand même du pognon, hein, il a trouvé du blé pour des instituts, les Terra Nova, réfléchir sur la pauvreté, et puis sa nomination au commissaire. Le Hirsch est passé par là, hein, je l'appelle l'autre pitre qui était passé par l'abbé Pierre, par Emmaüs, et au commissaire à l'engagement civique. Hein. Bon, là aussi, c'est une, je crois que 60 000, 120 000, il y aurait pauvres, malheureux jeunes qui sont là-dedans, évidemment, dans la croyance. Hein. Alors, dans la croyance aussi haute fripouille, alors, lesquelles, le plus haut, les plus basses, hein, mais bon, dans le capitalisme, et le prix Nobel de la paix, alors c'est Jean-Luc Porquet, le dernier canard enchaîné d'hier, où je vous avais dit, il évoque Cabu avec son ouvrage « Abat toutes les armées ». Et le prix Nobel de la paix est attribué à, hein, selon le « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Alors là, au niveau de ce que représente la France, secteur de l'économie florissant, hein, je vous le rappelle, ça valait le coup quand même de le souligner, deux fois mieux que le Sarkoland, hein, encore pour le Hollandais, le pire est à venir, hein, Alain Badiou nous l'avait dit hein, déjà en 2012, et vous avez vu qu'il avait raison. Hein. Alors, deux fois plus, hein, 80 milliards d'euros, hein, de ce que ça appelle, et pour le secteur de l'armement, 165 000 salariés. Hein, salaire de la peur, salaire de la honte, salaire de rien, mais enfin quand même, rendez compte, 160 000. Alors, puisqu'on parlait de... Vous savez que pour l'émission Chronique Hebdo, hein, le Harbart Marfrail travaille en libre depuis très 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 longtemps, parce que j'ai entendu dans une émission sur Radio Libertaire où on parlait de lire, d'aller revoir les ouvrages de Christophe Dejour, comme Souffrance en France, hein, il y a très longtemps déjà. Je vous rappelle qu'il a été... Il est venu dans cette émission, dans deux Chroniques Hebdo, c'est enregistré, hein, allez voir sur le... blog de Chronique Hebdo, et la question à poser, qui n'y a dans ces 165 000 salariés? Alors, il y a donc qui ont leur dignitude d'être employés, d'être ouvriers, d'être techniciens, d'être cadres, d'être ingénieurs, je vous le rappelle, ingénieur, ça vient d'engin de guerre, hein, et d'être chercheurs, il y en a d'autres, hein, évidemment, donc activité, fonction, comment on appellerait ça, emploi, hein, voilà, salariat, et donc à qui il faudrait poser les questions? Est-ce que ça te gêne ou pas, Alfred, ou Hubert? Est-ce que ça te gêne d'être donc de bosser dans l'armement, hein, chez Monsieur Dassault? Ça te gêne de bosser là, de faire des navions? d'avoir fait soi-disant Polytechnique, une grande école d'ingénieurs. Là aussi, toute la liste, vous avez une liste longue. Est-ce que ça te gêne de faire des armes? Est-ce que ça te gêne de faire des canons? Est-ce que ça te gêne de faire des avions qui déverseront, comme nous dit Jean-Luc Porquet, des armes modernes, sophistiquées, imparables, intelligentes, le mot est employé, comme on dit maintenant, nous dit Jean-Luc Porquet, on le dit, des armes, parce que comme les gens sont cons, donc les armes sont intelligentes, des armes qui tuent les humains en masse, qui éventrent les immeubles et rasent les quartiers, qui repèrent l'ennemi à distance et l'écrabouillent dans les grandes largeurs. Alors ça aussi, j'avais repéré ce matin, c'était le titre du Monde, le titre du Monde du 5 janvier. Comment la France, c'est dans les kiosques ce matin, la France traque les djihadistes. Alors voilà. Alors comment la France fait la guerre? Nous sommes en guerre. Vous savez donc, et les fabricants d'armement. Alors je l'ai dit aussi, interroger le boulot, leur boulot, leur dignitude pour travailler dans le nucléaire. Là aussi, vous le savez, CEA, Areva, EDF, toutes ces centrales qui font plouf, parce qu'il y en a plus du tiers à l'arrêt. Il y a eu des magouilles pas possibles, je vous en ai déjà parlé, sur la fabrication, sur elles sont dangereuses, toutes ces cuves, et le savoir-faire français, pas passé forcément par Tchernobyl, mais surtout par Fukushima, avec le désastre que vous connaissez. Et alors la question, c'est toujours pareil, les gens ils posent jamais la question, qu'est-ce que t'as fait comme boulot? Oui, faut bien manger, faut bien travailler, vous savez, avec toutes ces conneries. Et justement, ceux qui se battent contre l'idée même du travail, tel qu'il est en économie capitaliste, le travail tel qu'il est, justement, dans sa production, dans sa surproduction, on en a déjà parlé sur cette antenne et dans cette émission, sur les bagnoles, ce que l'on fabrique dans tous les domaines, comment se déplacer, l'histoire des TGV et tout ça. Et puis les nouvelles technologies, toutes ces questions évidemment qui sont primordiales et qu'il faut interroger et sur lesquelles il faut réfléchir. Alors le brigand, lui réfléchit beaucoup puisque pour la seule année 2016, il aura effectué 58 déplacements dans 35 pays, 409 000 kilomètres pour l'effet de serre, et Ségolène, elle l'embrasse dans les bras, je l'ai pris dans les bras, 10 fois le tour de la Terre, cet homme-là tient du missionnaire. Alors, l'industrie guerrière française, je vous le rappelle, 80 milliards d'euros, et alors tous les pays, évidemment, tous les pays s'y mettent, les États-Unis vont se réarmer avec la trompette, la Russie avec le Poutine, l'Asie, le Moyen-Orient et tous les pays européens, et même les Japonais, et même les Norvégiens, tout le monde s'y met. Les pays dits émergents, même si ces derniers temps, la baisse du prix du baril les a obligés à calmer un peu leur ardeur. Bonne nouvelle, ils remontent. Alors voilà, donc, ce que pour le prix du baril, et en même temps, concomitamment, c'est beau, les armes construites vont augmenter. Et donc le savoir-faire, encore une fois, franchet, le mérite du franchois, aura été d'arrêter net une irresponsable tendance à la baisse des budgets de la défense de la guerre depuis 35 ans. Mais faut faire mieux. Le budget de la défense est de la guerre est le deuxième de la nation, juste après celui de l'éducation. Alors là aussi, dans l'éducation, ils apprennent comment devenir de bons salariés pour bosser justement dans l'armement, dans le nucléaire, dans les sociétés en pointe, c'est-à-dire les sociétés de combat. En attendant évidemment une petite ubérisation aussi de ce côté-là, et Porquet nous rappelle évidemment le L'ouvrage abat toutes les armées, et je vous le conseille, cette émission sur Radio Libertaire. Les doux utopistes, les doux rêveurs, c'est la réalité, on peut pas faire autrement. Alors, faire des armes, ben vous savez, un jour ou l'autre, le retour, nous qui sommes pacifistes, on les prendra aussi dans la gueule. Hein. C'est pour ça qu'on n'est pas très content de tous ces braves gens qui portent quand même une responsabilité, parce qu'on dit toujours, c'est le système, hein, on peut pas faire autrement, c'est comme ça, on peut pas. L'individu, d'autant mieux. Je vous l'ai déjà dit, je vous ai parlé des libertaires, des anarchistes, doit avoir une réflexion sur ce qu'il fait, sur ce qu'il fabrique, sur les conditions de sa propre existence, ce qu'on lui demande de faire, et pourra dire toujours, c'est pour moi, je pouvais pas faire autrement, hein, et c'est comme ça, et puis j'ai un job, et puis c'est les autres en haut, hein, c'est les autres en haut qui ont décidé, hein, c'est pas moi qui fais la loi, hein, la loi militaire et tout ça, et donc j'accepte. Parce que je suis un citoyen, parce que je suis un démocrate et que je respecte la souveraineté nationale et le suffrage universel. Alors voyez, toutes ces conneries, ça mène qu'à ça, hein. Ça mène qu'à une société qui a réussi, comme la franche réussite, à fabriquer autant d'armements. Alors je vous le rappelle de temps en temps, hein, cocorico, hein, le pays le plus gendarmé, le pays le plus militarisé, le pays le plus fliqué, le pays le plus nucléarisé, je vous l'ai dit, et le pays qui fabrique le plus d'armes, c'est votre pays. C'est ce que nous chantait tout à l'heure Yvan Dautin, on est de ce pays. Voilà, vous êtes sur Radio Libertaire. C'est l'émission Chronique Hebdo jusqu'à midi, numéro du studio 01 43 71 89 40.
C'est le tango des bouchers de la Villette, c'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et la mourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne. Faut que les mandataires au hâle puissent enfourer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne. Faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne. Faut avaler de la barbaque pour être bien gara quand on claque et nourrir des vers comme hac. Faut que ça saigne. Bien fort. C'est le tango des joyeux militaires d'Hiroshima, du Kenwald et ailleurs. C'est le tango des femmes battant guerre. C'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne.
appuie sur la baïonnette. Faut que ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse taillette. Faut que ça saigne. Démolissant quelques-uns, tant pis si c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne. Si c'est pas toi qui les crèves, les copains prendront la relève et tu joueras la vie brève. Faut que ça saigne. Demain, ce sera ton tour. Demain, ce sera ton jour. Plus de bonhomme et plus d'amour. Faut que ça saigne. Bien.
Radio Libertaire, eh bien Mouloudji, interprétant la chanson, une chanson de Boris Vian, Les Joyeux Bouchers, hein, c'est en plein dedans, voilà. Et ça n'a pas changé, ça a été écrit il y a très longtemps. Et les déserteurs, et justement les déserteurs du boulot, hein, faudrait l'appliquer, objecteur de conscience au productivisme, objecteur de conscience au capitalisme, hein. Mais évidemment, puisque c'est tout ça, c'est relié. Alors, il y avait beaucoup de choses, des remarques aussi, j'avais vu, parce que paraît-il, il y a quand même un sénateur, un sénateur qui a été reçu par Radio Libertaire, et apparemment, l'animatrice, elle, devant ce sénateur, elle a presque défailli, hein, elle a presque dit, elle faisait des pauses, je ne sais pas des pauses, j'étais pas là, mais des mines qu'on entendait. Le grand honneur de vous recevoir. De vous recevoir, monsieur le sénateur Éric Bocquet, hein, Éric Bocquet. Alors bon, ils sont venus parler de l'histoire des impôts, histoire du fisc, d'un ouvrage sans domicile. Hein, au Cherche Midi qui a été publié, sans domicile fisc, hein, pour les paradis, toute l'histoire des paradis fiscaux, mais ça on le sait bien, simplement pour les frères Bocquet, hein, au Parti communiste français, Éric et Alain, hein, Éric et Alain Bocquet, donc il y a aussi le détournement des impôts par les parlementaires, hein. Et puis aussi la bonne petite rente, hein, puisque monsieur Alain Bocquet au Parti communiste, ça fait 40 ans lui qu'il est, hein, si vous avez eu des difficultés de vie, si vous avez eu des pannes de revenus, hein, une très grande misère ou pas de pognon dans vos poches ou des reproches par rapport à votre situation, vous trouviez pas de boulot, ben lui il œuvrait à l'Assemblée nationale, ça fait 40 ans. Et avec des bons revenus de l'ordre de 10 à 12 000 euros, il y a une partie qui ne passe pas par les impôts. Enfin, il y en a plusieurs, hein. Il y a beaucoup d'ouvrages, quelques ouvrages qui ont été écrits sur cette affaire-là. Alors après, entendre aussi que s'en prendre aux impôts, c'est s'en prendre à l'État et s'en prendre à l'intérêt général, c'est une phrase un petit peu que j'ai entendue qui avait du mal à passer, hein, qui avait du mal à passer sur Radio Libertaire, alors que des députés sénateurs se refassent une santé, une petite morale, enfin essaient, tout du moins en dénonçant les paradis fiscaux, bon, on veut bien, mais bon, quand on a été au Parti communiste français pendant aussi longtemps, on voit le qui est en train de disparaître, hein, de quel côté, qu'est-ce qu'on a servi et servi qui, là encore une fois, et qu'on a eu des emplois, comme on dit, des emplois scélérats, hein, pour les anarchistes en tout cas, de parlementaires, évidemment, c'est un petit peu difficile, mais on va rester quand même sur une note assez positive, d'un anthropologue qui a fait un rêve, Jean Monod, et qui se réveille un matin en disant, eh bien, l'État n'est plus, hein, ce que j'étais en train de vous dire, hein. Donc si on s'en prend à l'État, on s'en prend à l'intérêt général, non mais quand même. Alors, l'État n'est plus, quel enrichissement pour le pays, souvenez-vous, le racket, le pays pressuré par les collecteurs armés et les 9/10 du travail du peuple, passant dans la poche des seigneurs. Anthropologue Jean Monod qui est venu sur plusieurs fois sur Radio Libertaire, un petit texte pour les terminer. En colbertisant ce racket, Louis XIV a fait de l'État son bénéficiaire exclusif. Son petit-fils a été décapité, certes, mais l'État, lui, a survécu. Quel bénéfice pour ses nouveaux possesseurs. La révolution dans l'État maintenu, quel coup manqué pour le peuple. Pour l'avenir, quelle déconvenue. Alors, vous savez que, bon, le mot « peuple » est utilisé. Là encore, on peut essayer de le redéfinir, dire ce que ça veut dire. Et je ne vais pas le faire ce matin, mais je vais continuer le texte de Jean Monod. La principale différence avec l'Ancien Régime, c'est que les racketeurs, aujourd'hui, sont élus, leur chef en tête. Pourtant, personne ne nous y oblige. Nul n'est forcé d'élire un dictateur de la République, ni de perdre sa voix en la jetant dans une urne, paix à ses cendres. Voter, c'est placer quelqu'un au-dessus de soi. C'est le texte de Jean Monod, hein, je vais pas le commenter, j'ai plus le temps. Sur des promesses que rien ne l'oblige à tenir. Et oui, mes frères, mes concitoyens, égaux et libres, article 27. Tout mandat impératif est nul, vous le savez, hein. Non impératif, je fais ce que je veux, je vous emmerde. En clair, cela veut dire qu'il est illégal d'être tenu par un mandat. Un député ou un parlementeur ou sénateur, j'ai entendu Monsieur Hamon qui disait des godillots, hein, on n'était que des godillots et de l'autre côté des impuissants, ils ne peuvent rien faire. Bah, ils sont bien payés, hein, comme je vous le disais, ça peut durer 40 ans. Alors, sitôt qu'élu, le candidat change de monde. Il n'a plus de compte à rendre à ceux qui l'ont cru. Il n'a plus de compte à rendre qu'aux puissances d'argent qui sont au-dessus. Il n'est plus poussé d'en bas. Tout se passe désormais par attraction ascensionnelle. Ce n'est pas un scandale, c'est la loi. C'est la loi qui est un scandale. La constitution de la France, je vous en ai parlé, n'est pas démocratique. Elle est oligarchique. Elle a été votée quand 85% de la population actuelle n'existait pas. La parole tenue est illégale, selon la Constitution de 58, seule y est légale, la parole à double entente, le mensonge machiavélique. Enfin, tout cela est fini. Nous sommes sortis de l'hallucination collective. Le peuple décomposé, le pas a de nouveau été franchi. Plus d'État dans mon rêve, au-dessus de nous. Notre Constitution est en marche. Déjà, nous commençons à y voir plus clair. Nous établissons nos lois sans passer par aucun sommet de commune à commune. Nous organisons nous-mêmes notre travail et la répartition de nos bénéfices. Plus de pieuvre sur nos têtes. Quel enrichissement pour tous. Quel soulagement pour le pays. Pour l'État, quelle défaite. Pour le peuple, quelle fête. Quel épanouissement pour nos petits-enfants. Quelle renaissance de l'avenir. Sur quoi j'ouvris les yeux? Mur de béton, une sirène de police décapite mon illusion. Renonce, petit mec, s'attaquer à l'État, c'est comme vouloir débrancher un peuple sous perfusion. Voilà, Chronique Hebdo, c'est terminé. On se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine. Restez à l'antenne, surtout de Radio Libertaire, l'émission suivante de Rimes et Donuts, Marlène. Et puis, plein d'informations, évidemment, sur la chanson. Peut-être qu'on vous reparlera de ce spectacle des deux ailes de l'oppresse à Télébocal samedi prochain. Pour le moment, Chronique Hebdo, c'est terminé. Salut !